Et aujourd'hui, dans les Contes des communes, on pénètre dans une maison empreinte d'une histoire forte, celle de l'écrivain Jean Giono. Je suis avec Jacques Ménil, le président de l'association Les Amis de Jean Giono. Bonjour.
Bonjour.
Cette maison, elle a été rachetée en quelle année par la commune de Manosque?
D'abord, Giono l'a achetée en 1930 et la commune, la ville de Manosque, la commune l'a achetée en 2016.
Giono, pourquoi est-ce qu'il l'avait acheté en 1930? Qu'est-ce qu'il lui avait donné envie d'acheter cette maison?
Il y avait d'abord la nécessité d'acheter une maison parce que il faut pas oublier que jusqu'en fin 1929, il était banquier, employé de banque, mais sous-directeur d'une agence bancaire à la fin de sa carrière. Et que là, il a démissionné de la banque pour devenir écrivain à plein temps. Parce que également la banque périclitait et qu'il était obligé de quitter cet emploi. Mais cet emploi était nanti d'un très bel appartement de fonction que d'ailleurs son épouse, Élise Giono, a toujours regretté, hein, de préférer l'appartement de fonction. Elle a vécu 18 mois à cette maison. Donc il a eu nécessité d'acheter une maison. Et pourquoi dans ce quartier dit de la Paraïs, c'est le nom du quartier, hein, la Paraïs, et lui après va appeler la maison le Paraïs, parce que son père avait un petit cabanon, mais à 3 pas d'ici, et qu'il y a une partie du jardin là, qui longe la maison et qui maintenant fait partie de la propriété globale et qui va être aménagée très prochainement. Sur une étude faite par une agence d'aménagement de jardin et qui va être aménagée par la ville de Manosque, il y avait déjà une partie qui lui appartenait par héritage, que son père avait acheté avant la guerre de 14. Donc il connaissait très bien le coin.
Il y avait quelque chose de sentimental du coup dans l'achat de cette maison?
Il y avait surtout peut-être le prix, mais il faut dire que surtout c'était une maison qu'il a fait agrandir en plusieurs étapes par la suite, hein, il n'y avait que cette partie ici que nous avons devant nous sur la terrasse qui existait. C'était une maison extrêmement sommaire, hein.
Et ça, ce côté sommaire, ça lui convenait du coup à Giono? C'était quelqu'un...
Lui, vu qu'il est un lieu pour écrire, ça ne l'a jamais gêné en effet. Par exemple, les meubles, c'est très disparate parce que c'est des dons, des héritages, des choses. Bon, ça n'a jamais intéressé. Il a quand même écrit sur la même planche toute sa vie. C'est une planche posée sur un bas de table. Par contre, l'argent passait dans les livres et sur le plan de la coquetterie, dans les vêtements.
Est-ce que la maison, du coup, elle a évolué telle qu'on la voit aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué quand Giono l'a quittée?
Il l'a fait évoluer lui de son vivant d'abord. C'est-à-dire qu'il y avait ce bastidon sur 2 étages. Et puis, il a fait construire un premier appenti ici, séparé de la maison en 1932, pour en faire un bureau, parce qu'il était obligé d'écrire dans une petite chambrette qu'il partageait avec une vieille grand-mère. Donc, il se fait construire un petit bureau ici. Ces bureaux, pendant longtemps, il les compare à des cellules de moines. C'est un côté très austère, très monacal. Et de 32 à 35, il écrit là. Puis en 1935, comme il faut encore s'agrandir, parce que la famille s'agrandit, et des livres de plus en plus nombreux. Donc, il faut une bibliothèque. Et il va s'installer au 2e étage de la maison pendant presque 30 ans, dans 2 bureaux successifs. Et après sa mort, donc il va y avoir bientôt 50 ans, puisqu'on commence à travailler sur les commémorations du cinquantenaire, dont une exposition de 4 mois au Mucem à Marseille. Non, il n'y a pas eu beaucoup de changements. La famille a entretenu le lieu très bien. Bon, les droits d'auteur de Giono permettaient encore à l'époque de faire un entretien. Maintenant, il y en a un peu moins. Donc évidemment, c'est là où Sylvie Giono a dit « je ne peux plus assumer », en effet. Surtout qu'en vieillissant, la maison se dégrade. Donc il faut là stopper tout ça. Donc c'est le projet de la ville de restaurer aussi le bâtiment. Oui.
Alors justement, avant de parler de votre action, vous, à l'association, est-ce qu'on peut faire un petit tour dans cette maison de Giono, voir où est-ce qu'il travaillait?
Donc là, au rez-de-chaussée, il y a ce petit bureau et dans lequel il va revenir fin 1964. C'est là où il va finir ses jours et son œuvre et son travail d'écriture. Donc quand ses jambes n'ont plus pu le porter au second étage, où donc il s'était installé pendant presque 30 ans, il est redescendu, il a fait réaménager, repeindre son petit bureau d'origine. Cette pièce était destinée, et toujours était... Évidemment, le nombre de livres a augmenté au fur et à mesure des années, à être ce qu'on appelle la grande bibliothèque, parce qu'elle est toute en longueur et qu'en effet, elle est assez spectaculaire, elle est assez belle, où il y a quand même, sur le rez-de-chaussée, à peine la moitié des 8500 livres et documents, en tout cas, qui sont conservés ici, le reste étant au second étage.
Pour travailler sur ses œuvres, il travaillait vraiment ici ou est-ce qu'il allait sur le terrain pour s'inspirer?
C'est quelqu'un pour qui la littérature est primordiale. C'est-à-dire que je pense que le premier terrain sur lequel il travaille, travail, c'est sa bibliothèque, qu'il n'a cessé d'enrichir jusqu'à son dernier souffle. Vous voyez, c'est d'abord la littérature. Le terrain, non, le terrain, c'était la promenade. Donc la promenade, bon, il aimait ce pays, mais il aimait ce pays, je dirais, sensuellement. Il l'aimait pour ses odeurs, ses couleurs, les formes, les paysages. Et comme il a dit, je m'en suis servi comme décor, et j'en ai parlé parce que j'aime leur beauté. Un décor. Mais en ajoutant, ça aurait pu se passer complètement ailleurs, ça aurait été la même chose. J'aurais dit la même chose sur le fond. Hein, je veux dire que son œuvre n'est pas tributaire de ça.
Est-ce qu'on sait, là on voit tous ses livres, est-ce qu'on sait s'il avait un auteur favori qui peut-être l'a inspiré
Évidemment, il y a un certain nombre, sur 50 ans d'écriture, il y a un certain nombre d'écrivains qui ont été extrêmement importants pour lui. Les deux plus importants, à partir de 1938, c'est là où ça commence, qui vont marquer vraiment et influencer complètement son travail, c'est d'un côté, pour les anciens classiques français, 19e siècle, c'est Stendhal, et pour les modernes, c'est-à-dire ses contemporains, ils ont le même âge, c'est William Faulkner.
Qu'est-ce que ça a changé, par exemple?
Ça a changé complètement, c'est que tout d'un coup, des structures de récits qui lui ont été suggérées par la lecture de Faulkner, je veux dire, de bousculer la chronologie, de faire raconter l'histoire par plusieurs narrateurs qu'on trouve chez Faulkner, là tout d'un coup, ça va émerger après une longue maturation. C'est là où il va revendiquer aussi l'invention d'un Sud inventé, d'un Sud imaginaire, dit-il, comme Faulkner l'a fait avec son comté de Yorkpanatofa, etc. Pour l'influence directe, c'est Stendhal et Faulkner.
Est-ce qu'on connaît la journée type de Jean Giono? Est-ce que déjà il écrivait tous les jours ou pas forcément?
Il y a ce qu'il en raconte et il y a ce qui est la réalité, c'est-à-dire que c'est un peu vrai des deux. J'écris tous les jours mes quelques pages, oui, c'est pas vrai. On voit quand on est sur des correspondances intimes et inédites pour l'instant, qu'il y a des trous, des périodes comme ça, et puis il va y avoir des crises de création. Hein, je veux dire, bon. Mais enfin, il écrit quand même régulièrement. Mais c'est quelqu'un qui compose très vite. D'accord. Certains de ses chefs-d'œuvre, ses livres même les plus compliqués, sont écrits entre 30 jours et 4 mois. Les âmes fortes, c'est 4 mois. Les grands chemins, 2 mois. Moi, sans divertissement, 30 jours.
Et c'était ici, du coup, à chaque fois qu'il écrivait? On sait que
il écrivait quand il était en vacances, un petit peu. Comme un écrivain, ça ne s'arrête pas d'écrire parce que ça part en vacances, ouais. Lui. Bon. Mais, enfin, tous les livres, évidemment, c'est aussi une des caractéristiques de cette maison, c'est que tous les livres, quasiment, il en avait 4 de terminés quand il est arrivé ici. Et donc, tous les livres ont été finalisés, sont partis d'ici, tapés sur ces machines à écrire. Enfin, ça, c'est la première et la dernière. Il y en a eu d'autres entre les deux, tapés en grande partie par son épouse.
De votre association, justement, comment est-ce que vous travaillez? Quel est l'objectif de cette association? C'est de faire revivre l'œuvre de Giono, en quelque sorte?
Faire revivre, c'est même pas nécessaire parce qu'elle est vivante. Donc, c'est au contraire d'accompagner cette vitalité extraordinaire de cette œuvre, à la soutenir, à faire qu'il soit sans arrêt présent dans l'actualité, à organiser des manifestations de médiation ou des publications, un festival d'été des rencontres Giono. Et ensuite, on a une collection. Donc ce sont les 8500 livres que vous avez là, ce sont les meubles, ces machines à écrire. Donc nous sommes en train de mettre en place les modalités de notre travail, de notre partenariat avec la collectivité qui, elle, est propriétaire de la maison, pour que ça se passe le mieux possible, le plus harmonieusement possible. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais pour qu'on assume chacun nos responsabilités sur ce fonds extraordinaire. Il y a peu de maisons d'écrivains qui ont été gardées comme ça, dans leur état, dans leur jus, pendant plus de 50 ans, hein, bientôt 50 ans, après la mort de l'écrivain.
Et alors justement, pour les années qui viennent, c'est quoi les projets de l'association? C'est continuer à faire vivre ce lieu, notamment?
C'est de participer avec la collectivité territoriale, en effet, à faire vivre ce lieu. Seront associés à tous les travaux de recherche, bien sûr, de médiation. Nous avons, bien sûr, continuer à faire vivre nos publications de recherche. Et nos publications aussi grand public, hein, parce que l'association, c'est 600 membres. Ouais. Et puis, on a aussi la perspective du cinquantenaire de la disparition de Giono. Donc, il est mort en 70, ce sera en 2020. Et on commence avec un peu d'anticipation, le 29 octobre de l'année prochaine, au MUCEM, avec une immense exposition, très très belle, une grosse production. et un beau livre catalogue-album qui sera préfacé par le Clésio, qui est une coproduction Gallimard, une coédition Gallimard-Mucem. Et ça va être un grand, très grand événement. Mais il y aura des programmes éditoriaux, il y aura des colloques, il y aura des choses à Paris, il y aura des choses. Mais peut-être aussi à New York et en Angleterre, à Oxford. On a vraiment des projets, mais c'est d'entretenir la vitalité de cette œuvre.
Merci Jacques Ménie. Je le rappelle, vous êtes le président de l'association Les Amis de Jean-Jacques.